France Inter.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Une Amérique face à l'autre, devant des dizaines de millions de spectateurs. Donald Trump est attendu ce soir à la finale du Super Bowl, événement autant sportif que politique et sociétal. Nous irons à la Nouvelle-Orléans où se joue le match et l'on tentera de comprendre la stratégie politique du président américain, le premier à assister en personne au Super Bowl. En France, l'exploit sportif du jour, à 23 ans, elle mesure 1m67 et vient de terminer un tour du monde à la voile en solitaire, violette d'orange, acclamée au Sable d'Olonne, comme si elle avait remporté la course. La jeune navigatrice, suivie par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, est sidérée par l'accueil qui lui est fait pour son retour à terre. Emmanuel Macron, lui, revient sur la scène médiatique à la faveur du sommet sur l'intelligence artificielle qu'il préside à Paris jusqu'à mardi. Il est attendu ce soir à la télévision. 120 policiers mobilisés à Épinay-sur-Orge pour retrouver l'arme qui a tué la jeune Louise et peut-être élucider les circonstances de la mort de la collégienne. Pas de chasseurs pendant les vacances, la Fondation 30 millions d'amis sondent les Français et affirment qu'ils sont de plus en plus nombreux à réclamer que les fusils se taisent le temps des congés scolaires. Et puis il est l'un des acteurs les plus aimés du cinéma français, Vincent Lindon, se confie en toute vérité, pas sous sa meilleure lumière, dans un documentaire à voir sur Arte. Et l'on terminera avec la météo, Céline Dacosta, encore du gris pour ce lundi.
Oui, alors on trouvera quand même quelques éclaircies et je vous dirai où à la fin du journal.
Ça c'est du teasing, rendez-vous à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est une photo de l'Amérique, un dimanche de Super Bowl. Aux États-Unis, cette grand-messe du football américain, la finale du championnat sonne comme le point d'orgue de l'American Way of Life.
We're here to write a new page in the history books and achieve immortality. They want to run it.
Voilà pour la bande-annonce, plus de 120 millions de téléspectateurs, 8 millions de dollars, l'écran de pub de 30 secondes sur Fox, le diffuseur de l'événement, près d'1,5 milliard d'ailes de poulet grignotées pendant le match qui dure des heures. Et cette année, la finale se déroule à la Nouvelle-Orléans où l'on vous retrouve, Loïc Piala, notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonjour.
La Nouvelle-Orléans, exemple de résilience.
Nola Strong, la Nouvelle-Orléans forte, un démo écrit en gros dans le parc de Jackson Square en face du fleuve Mississippi. Strong, un mot que chaque ville américaine touchée par une tragédie met en avant pour montrer son envie d'avancer. Le 1er janvier, un terroriste a tué 14 personnes en roulant sur la foule à Bourbon Street, la rue de la soif du quartier français. Mais à aucun moment il n'a été question de délocaliser l'événement sportif le plus suivi du pays. Et la venue de 125 000 visiteurs envoie le même message, l'Amérique fera la fête quoi qu'il arrive. En revanche, la police est partout, dans l'une des rares villes des États-Unis où les touristes peuvent se balader à pied facilement, et pas seulement la police. Le gouverneur a fait appel à la garde nationale en charge de surveiller chaque croisement, d'où ce contraste dans le bruit des bars entre ces hommes et femmes sérieux, en uniforme et armés, en position devant des barrières épaisses, et puis des touristes, pas toujours sobres, hurlant Go Chiefs ou Go Bears, des deux équipes engagées dans ce Super Bowl avec le maillot de leur équipe préférée, et en shirt, il fait chaud, hein, 25 degrés ce matin, ou portant les colliers de perles colorées typiques du quartier français. Et cette sécurité est bien accueillie par les visiteurs. Certains remercient chaleureusement les shérifs, posent avec la police, salue les bateaux des gardes-côtes sur le Mississippi. Ils se sentent protégés, peut-être plus que dans n'importe quelle autre ville du pays aujourd'hui, surtout que Donald Trump vient assister au Super Bowl, une première pour un président en exercice.
Alors on va en reparler justement. Merci Loïc Piala en direct de la Nouvelle-Orléans. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir ou bonjour.
En effet, oui, bonjour à vous. Si on en parle effectivement autant cette année, c'est aussi en raison donc de la présence pour la toute première fois du président des États-Unis dans les tribunes. Donald Trump va assister au Super Bowl. Il veut montrer qu'il a gagné la bataille culturelle, mais le match n'est peut-être pas plié d'avance, Simon.
Non, car ce sont bien deux Amériques qui se rencontrent ce soir. Donald Trump ne sera pas le seul à attirer les regards. La star mondiale Taylor Swift, elle aussi en tribune. Le président la déteste, c'est lui qui le dit, parce qu'elle soutient les démocrates. Le rappeur Kendrick Lamar, sur scène à la mi-temps, il traite Trump d'imbécile dans une de ses chansons. Cette opposition, on la retrouve dans le lieu même du match. Un État, la Louisiane, largement trumpiste, mais une ville, la Nouvelle-Orléans, qui a voté à 80% pour Kamala Harris. On la retrouve aussi dans le monde du football américain. Les propriétaires d'équipes financent largement le camp républicain, mais les joueurs penchent côté démocrate. Même si, on entend plusieurs vedettes du soir, dont le compagnon de Taylor Swift, joueur de Kansas City, se réjouir désormais ouvertement de la venue du président. Et c'est justement ce que veut montrer Donald Trump, que les temps ont bien changé par rapport à son premier mandat, quand plusieurs équipes sportives refusaient de fêter leur titre à la Maison-Blanche. Et quoi de mieux pour asseoir cette domination que l'événement dont vraiment tout le monde parle ici. Je vois par exemple de ma fenêtre que ma voisine est en train de peindre un joli drapeau aux couleurs des Eagles de Philadelphie.
Simon Le Baron, en direct de Washington pour France Inter. Merci à vous. En France, le phénomène sportif du jour, c'est Violette d'Orange. Toute jeune navigatrice de 23 ans, la Benjamine du Vendée Globe, a bouclé son tour du monde à la voile en solitaire en 90 jours et un peu plus de 22 heures. Elle arrive 25e au classement, très loin derrière le vainqueur Charlie Dalin, 26 jours après lui. Mais son arrivée à la mi-journée au Sable d'Olonne a été digne d'une championne, acclamée par des dizaines de milliers de fans qu'elle a conquis en racontant son aventure sur les réseaux sociaux et dans les médias. Jérôme Val est à son arrivée au Sable.
Un tourbillon qui a tout emporté sur son passage, y compris la jeune navigatrice qui paraît toute frêle à l'avant de son bateau, en train de saluer l'impressionnante foule massée sur les quais, des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers, sans doute plus que pour le vainqueur il y a presque un mois, tous voulaient l'apercevoir.
Je l'aime, Violette, c'est une fille incroyable.
On est émus de l'avoir vue en vrai.
Oui, on l'admire parce que son jeune âge, sa force de caractère fait qu'on aurait dû un vieux loup de mer, mais finalement elle est jeune et je pense qu'elle promet pour les années à venir.
Une fois posé le pied à terre, impossible pour Violette d'Orange de rester insensible à tant de ferveur.
Honnêtement, je suis sortie un peu de mon corps, tellement c'est chamboulant de voir autant de monde et autant d'énergie. Il y avait des personnes déguisées, il y avait des pancartes, il y avait des feux à main, des feux d'artifice, c'était magique.
La nouvelle coqueluche de la course au large a retrouvé ses proches, dont son père Arnaud, ému et fier de retrouver sa fille.
Ça fait longtemps qu'elle veut faire ça. C'est des années et puis des années qu'on lui avait toujours dit qu'on serait là pour l'aider à réaliser ses rêves.
En début d'après-midi, Violette d'Orange a pu déguster un plat de ravioles, se reposer un petit peu avant un nouveau tourbillon médiatique, celui-là.
Le reportage de Jérôme Val au Sable d'Olonne et sa tournée médiatique, elle passe demain par France Inter, évidemment, où on vous a fait entendre ses notes vocales tout au long de la course. Violette d'Orange sera l'invité exceptionnel du 13-14 de Jérôme Cadet. Lui surfe sur une autre vague. Emmanuel Macron renoue avec la Startup Nation et préside un sommet mondial sur l'intelligence artificielle jusqu'à mardi à Paris, dans le but de ne pas se faire distancer par les géants américains ou chinois de l'IA. Le monde de la culture a inauguré les discussions tout le week-end. Jean-Michel Jarre en tête, le compositeur d'Oxygène, n'hésite pas à accuser des plateformes comme Spotify de vouloir se passer des artistes pour les remplacer par des créations des IA et de priver les créateurs de droits d'auteur.
L'IA moissonne, c'est-à-dire en fait récupère la totalité du contenu culturel mondial pour entraîner leurs algorithmes. On peut se dire qu'aujourd'hui, les plateformes d'IA sont valorisées à plusieurs milliards de dollars grâce à notre contenu. Il faut donc en fait trouver un moyen de rémunérer de manière équitable les artistes et je pense qu'il va falloir inventer un autre système que le système de droit d'auteur qu'on a connu jusqu'à maintenant dans ce gâteau digital 3.0 qui est en train de se faire. Évidemment, il faut que le monde de la culture en ait une part. Il faut simplement aujourd'hui se réveiller et faire en sorte qu'on n'ait pas seulement un ministère de l'IA parmi d'autres, mais aujourd'hui l'IA devrait être attachée d'urgence à l'éducation, à la santé, à la culture bien évidemment, à l'industrie, à tous les secteurs de société.
Jean-Michel Jarre, invité de France Info. Alors Emmanuel Macron répondra-t-il aux interrogations des artistes et de nombreux autres secteurs? Il s'exprime ce soir à la fin du journal de 20h sur France 2. Le chef de l'État, absent des dernières séquences politiques sur le budget ou le débat sur le droit du sol. Bonsoir Julien Nenni.
Bonsoir.
Le président revient donc sur la scène médiatique, sur des sujets finalement peu politiques, mais il ne le fait pas à moitié, Julien.
Oui, c'est une vidéo un peu étrange qu'Emmanuel Macron a publiée à la mi-journée sur ses réseaux sociaux.
Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral.
On y voit le visage du président incrusté à toute une série d'images d'archives. Ici, Emmanuel Macron se trémoussant sur Voyage, Voyage de Désirless, coupe mulet incluse. Là, Emmanuel Macron en influenceur beauté.
Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit.
Là encore, le chef de l'État reprenant un tube de la chanteuse Angèle.
Et tu voudrais qu'elle soit en reine ce soir.
Le coup de com' du président reprend tous les codes des réseaux sociaux.
C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire.
Pour promouvoir auprès d'un public plus jeune les enjeux de l'intelligence artificielle.
Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous.
Un plan média bien huilé pour Emmanuel Macron après cette vidéo décalée, mais aussi un long échange avec la presse régionale hier. Il donnera ce soir une interview en direct sur France 2.
Et l'enjeu est très important pour le président. Il prépare depuis des mois ce sommet sur l'IA, Julien.
Oui, ça va être son truc, résume un proche. Façon aussi pour le chef de l'État de tenter de reprendre la main sur le plan national. Après ce sommet, une autre initiative plus politique encore est en préparation à l'Élysée. Un ou plusieurs référendums. Pourquoi pas organiser d'ici l'automne ?
Julien Nenny, service politique de France Inter. Le chef de l'État doit aussi annoncer demain son choix pour le Conseil constitutionnel. Il faut nommer un remplaçant au président du Conseil, Laurent Fabius, et le siège pourrait bien revenir à Richard Ferrand, l'un des fidèles parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Ancien ministre, l'affaire des mutuelles de Bretagne lui avait coûté sa place au gouvernement en 2017. Il a obtenu un non-lieu au titre de la prescription. Également ancien président de l'Assemblée nationale et défait lors des législatives en 2022 dans le Finistère. Pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand va devoir convaincre à l'Assemblée et au Sénat. Les présidents des deux chambres doivent eux aussi nommer deux autres nouveaux membres au Conseil constitutionnel. Vous avez aimé les débats sur le budget 2025, vous adorerez ceux sur le budget 2026 et selon le ministre de l'Économie, Éric Lombard, la préparation de la prochaine loi de finances débute dès demain, lundi, pour pallier le temps, dit-il, qu'il aura manqué pour le budget 2025. Le ministre a également confirmé que la surtaxe sur les très grandes entreprises instaurée cette année cible des critiques des grandes fortunes, dont Bernard Arnault. Cette surtaxe ne s'appliquerait pas l'an prochain. De gros moyens policiers déployés aujourd'hui en Essonne après la mort de Louise, cette collégienne de 11 ans, disparue après les cours vendredi et retrouvée quelques heures après sans vie dans un bois. Plus de 120 policiers étaient mobilisés à Épinay-sur-Orge pour chercher l'arme du crime. Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir.
Les fouilles se sont terminées il y a une heure environ.
Oui, la nuit est tombée, donc le dispositif a été levé. Des policiers et CRS étaient à pied d'œuvre tout l'après-midi avec des chiens, des drones, des détecteurs de métaux et une brigade équestre. Alors la scène de crime avait déjà été fouillée depuis la découverte du corps de Louise dans la nuit de vendredi à samedi. Là, l'objectif était de ratisser minutieusement chaque parcelle de ces 3,5 hectares de bois et de chemin. C'est un lieu de promenade entre ville et champ à environ 1 km du collège de l'adolescente. Les policiers cherchaient tout indice pouvant mener au meurtrier et notamment cet objet tranchant avec lequel la jeune fille a reçu de nombreuses plaies, c'est ce qu'a révélé l'autopsie hier, à la recherche aussi de tout indice pouvant mener à l'auteur ou aux auteurs du crime. Alors c'est le côté le plus spectaculaire, mais à côté, l'enquête classique se poursuit. L'analyse des images de vidéosurveillance, le bornage des lignes téléphoniques et les interrogatoires de témoins. Hier, de premiers éléments avaient conduit à placer un jeune couple en garde à vue, mais ils ont été relâchés sans poursuite. Le procureur d'Evry, Grégoire Dulin, a d'ailleurs regretté que leur nom ait été divulgué et a appelé à respecter la présomption d'innocence.
Merci Sarah Guibaudot, chef du service police-justice.
France Inter, Amélie Perrier.
Une nouvelle étape dans la trêve entre le Hamas et Israël. L'armée israélienne a terminé son retrait d'une zone stratégique dans la bande de Gaza, le couloir de Netzarim. Ce corridor est une zone tampon séparant le territoire palestinien en deux, nord-sud. Il a empêché jusque-là et depuis près d'un an et demi la libre circulation des Palestiniens. Étienne Monin de la rédaction internationale, c'est un vrai progrès pour les populations que vous avez pu joindre sur place.
Sur une vidéo tournée depuis une voiture, on voit des collines de gravats à perte de vue. Il ne reste plus aucun bâtiment debout dans cette ancienne zone militarisée de plus de 6 km de long sur au moins 2 km de large. Depuis presque un an, cette bande de terre coupe hermétiquement l'enclave en deux. Au sud de la ville de Gaza, de la frontière israélienne jusqu'à la mer, le retrait de l'armée permet donc aux habitants de retrouver une véritable liberté de circulation, dit Nédal, interrogé par WhatsApp depuis le secteur nord.
Là, c'est vraiment la fin des restrictions de mouvement entre le sud et le nord de la bande de Gaza. Maintenant, les gens peuvent circuler librement entre les deux parties.
Dans ce corridor, l'armée israélienne avait monté des bases avancées pour ses opérations. Elle est maintenant positionnée dans la zone tampon contre sa frontière. Son recul est un signe positif au moment où des doutes s'expriment sur la deuxième phase de négociation, estime Nédal.
Pour les Palestiniens, c'est vraiment l'espoir que la guerre est finie et que la guerre ne reviendra plus jamais.
Il y a maintenant des embouteillages sur la grande route qui traverse le corridor en direction du nord. D'après l'ONU, plus d'un demi-million de personnes sont déjà remontées depuis le début du cessez-le-feu. C'est presque la moitié de la population de ce secteur avant la guerre.
Étienne Monin et Benjamin Netanyahou, de retour d'une visite aux États-Unis, annoncent envoyer des négociateurs au Qatar pour discuter de la suite du cessez-le-feu. Dans le même temps, le Premier ministre israélien soutient le plan de Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire une destination touristique en déplaçant les populations palestiniennes vers l'Égypte et la Jordanie. Les pays arabes, vent debout contre cette idée, tentent de se coordonner en ce moment pour répondre au président américain. Le chef de la diplomatie égyptienne est parti aujourd'hui pour Washington. Une accalmie en République démocratique du Congo au lendemain de l'appel des dirigeants régionaux à un cessez-le-feu. Le front était calme aujourd'hui après d'intenses combats hier. Hier, lors du sommet des présidents, les présidents congolais et rwandais ne se sont pas croisés. Le congolais Félix Tshisekedi participait en visio. Le Rwanda, lui, est accusé d'épauler le groupe M23 dans son offensive à l'est de la RDC. La Libye, enfer des candidats à l'exil. Les corps de 28 migrants ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégal dans la région de Koufra, c'est l'extrême sud-est du pays. Il s'agirait de personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Les forces de sécurité ont retrouvé leurs cadavres après une opération contre un réseau de trafiquants d'êtres humains, un centre où étaient séquestrés des dizaines d'exilés. Pour la présidente de la Commission européenne, c'est la fin des menaces et du chantage russe. Ursula von der Leyen a salué l'intégration des pays baltes au réseau électrique européen. Lituanie, Estonie et Lettonie se sont déconnectés du réseau russe hier et se sont synchronisés avec l'Europe occidentale aujourd'hui par l'intermédiaire de la Pologne. Ces trois anciens États soviétiques, aujourd'hui membres de l'UE et de l'OTAN, ont clairement pris parti pour l'Ukraine depuis le début de la guerre lancée par la Russie et redouté le chantage de Moscou sur leur approvisionnement en électricité. En France, des vacances sans coup de fusil. De plus en plus de Français veulent profiter des congés pour aller se balader à la campagne ou en forêt. Et selon un baromètre annuel de 30 millions d'amis, une très large majorité de sondés réclame une pause de la chasse pendant les vacances, plus de 80% selon le sondage réalisé avec l'IFOP. Bonsoir Erwan Chassin.
Bonsoir Amélie.
D'année en année, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir que les chasseurs posent leur fusil.
8 Français sur 10 souhaitent cette interdiction, un chiffre qui progresse ces dernières années, ce qui ne veut pas dire que la France est anti-chasse. Tempère Réa Hutin, elle est la présidente de la Fondation 30 millions d'amis.
On a le droit de chasser, donc on ne s'oppose pas à la chasse, mais on demande juste qu'on puisse partager nos forêts avec les chasseurs d'une manière qui soit sécurisée.
Une injonction à poser les fusils qui agace une fois de plus Willy Schran, il préside la Fédération nationale des chasseurs.
Mais là, on parle de 90 à 95% de la forêt qui est privée. Depuis quand en France, on devrait effectivement, chez soi, devoir subir une loi qui vous interdit de faire quelque chose de légal chez vous pour laisser la place à d'autres gens qui voudraient venir se promener chez vous?
Mais la question n'est pas seulement celle du partage de l'espace pour Réa Hutin. Pour elle, ce baromètre témoigne justement d'un changement global des mentalités des Français que les chasseurs doivent prendre en compte.
En effet, il y a vraiment, véritablement une évolution. Ça va aussi avec l'écologie, avec le respect de l'environnement et autres. C'est le respect de tous les êtres vivants.
Voilà, selon le baromètre de la Fondation, 73% des Français se disent favorables à une interdiction bien plus large de la chasse, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires, mais aussi lors des week-ends et des jours fériés.
Erwan Chassin, merci à vous. Le tournoi Destination sourit à l'Irlande après avoir fait plier l'Angleterre. Les Irlandais l'ont emporté cet après-midi face à l'Écosse, 32 à 18 à Édimbourg. Ils sont les seuls à rester invaincus à pouvoir prétendre au grand chelem. Et puis le cinéma français l'aime tellement. Le comédien Vincent Lindon se livre sans phare dans un étonnant documentaire « Cœur sanglant ». L'acteur de Titane, de La loi du marché ou encore de Ma petite entreprise parle de sa vie, de son rapport au cinéma et de son métier. Avec des images tournées en partie par lui-même, une confession face caméra qui a plu à Corinne Pellissier.
Si j'ai 20 secondes pour répondre qui je suis...
Pendant 4 ans, il s'est filmé avec son téléphone portable au restaurant, chez lui, en voiture, en panne, sur l'autoroute.
J'en ai plein de cul !
Vincent Lindon, intense et vulnérable, qui se met à nu ici comme jamais, partageant avec nous ses angoisses, ses névroses.
Je suis très irritable, je suis incroyablement lucide. Je suis d'un égoïsme, d'un égocentrisme qui n'a pas d'égal.
150 heures de rush au total, disséquées, remontées, complétées par Thierry Demézière et Alban Turley, dans un film puissant, singulier et très honnête, qui revient pêle-mêle sur l'enfance du comédien, ses blessures, le métier d'acteur ou l'obsession du temps qui passe.
Je suis à la période de ma vie où on voudrait que les journées durent 100 ans. Je m'arrange pour qu'elles durent 20 secondes.
Vincent, quelqu'un qui ne se cache pas.
Ça veut rien dire.
Il en parle dans le film, il est obsédé par... Par le parfum qu'il va laisser,
par la trace qu'il va laisser. Et l'idée qu'effectivement il existe quelque part une trace enregistrée de ce qu'il a dit, de ce qu'il a vécu, lui plaît énormément, le rassure beaucoup. Le film a presque une valeur testamentaire pour lui.
Le résultat, son concession est remplie de pépites, de séquences qui tour à tour nous interpellent, nous émeuvent, nous font sourire. OVNI très réussi qui renouvelle le genre du portrait, diffusant dans son sillage bien plus qu'un parfum.
Cœur sanglant, le portrait de Vincent Lindon signé Thierry Demézières et Alban Teurlé. Laissez à voir sur arte.tv. On termine avec la météo.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
On va démarrer la semaine encore une fois sous la grisaille.
Et oui, les jours se suivent et se ressemblent avec un ciel bien couvert et humide sur la plupart des régions demain matin. Peut-être même un petit peu de neige de la Normandie au nord-est qui pourrait donner quelques centimètres au sol. La goutte froide qui est encore au-dessus de nos têtes, hein, ce dôme d'air froid rend ces prévisions un petit peu instables. Tout ça va se préciser évidemment au fil des heures. Un ciel gris et pluvieux pour les autres plus au sud. Là où le temps sera plus calme, plus sec, avec même un petit peu de soleil, c'est à l'ouest, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charente, mais aussi plus au sud, en région PACA et sur les Pyrénées, où là, ce sera plus un soleil voilé.
Et pour les températures ?
Bien frais encore demain matin, avec 0 à 4 degrés sur le nord du pays, 2 à 9 pour la moitié sud. Les maximales, elles iront de 3 à 8 degrés sur la moitié nord. Ça baisse un petit peu par rapport à aujourd'hui. Toujours très doux pour la moitié sud, avec 12 à 17 degrés.
Céline Dacosta, merci à vous.